Alors vous le savez sans doute.
Et si pas, je vous le dis.
La nouvelle année est traditionnellement le moment des messages inspirants et inspirés. Nous avons eu droit au traditionnel discours de notre roi, plein d'optimisme en l'avenir. Alors qu'au même moment, le président de la République française y allait lui aussi de son petit boost de confiance en la capacité du peuple de France à rebondir malgré les embûches et la défaite en finale de la Coupe du Monde de football. Voilà donc les Belges et les Français rassurés pour un temps. Alors l'Église n'échappe pas, elle non plus, à cette tradition du message de Nouvel An, charge du pasteur que je suis de dire quelque chose d'intelligent et à tout le moins d'inspirer pour que vous puissiez vous engager dans cette nouvelle année en arborant votre plus beau sourire ou votre plus terrifiant rictus. C'est selon. Quelle vision pour cette année 2023? Quel pourtour dessiné? Sur quel signe fonder cette nouvelle année pour notre Église? Alors, je n'ai pas de boule de cristal, ça devrait vous rassurer. Je ne sais strictement rien de l'avenir. La seule chose que je sais, c'est que la parole éternelle de Dieu a quelque chose à nous dire en ce premier jour de l'an, comme tous les jours de notre vie. Une parole m'a donc été adressée au travers de la page biblique et avec elle, réflexion que je m'en vais vous partager aujourd'hui. Alors, rien de révolutionnaire, que du connu, du moins je pense, mais qui a pour objectif de nous libérer de ce qui nous enchaîne peut-être encore et nous empêche d'être ce que Dieu veut que nous soyons. En effet, il me semble que nous nous promenons en permanence, encore souvent, avec un nombre incalculable de pensées, de ressentis vis-à-vis de nous-mêmes et des autres, d'attentes innombrables qui sont autant de fardeaux que nous portons en nous et qui nous empêchent de connaître une véritable paix intérieure, un véritable changement. Je vais donc prendre ce premier texte qui se trouve dans la première épître de Paul à l'église de Corinthe, dans le premier chapitre de cette épître. C'est de là que ma réflexion est partie. Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Qui se souvient de ce que j'ai dit il y a 2 semaines au sujet des généalogies? Rappelez qu'elles servaient de curriculum vitae à l'époque. Et nous avions d'ailleurs relevé que celle se trouvant dans l'évangile de Matthieu, celle de Jésus donc, ne répondait en rien aux critères de l'époque. Eh bien, cette parole de Paul est notre CV à nous. Nous sommes ici en présence du CV de la grâce de Dieu. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à première vue, aux yeux du plus grand nombre, aux yeux du monde donc, il n'est pas très porteur non plus, ce CV. En fait, aux yeux du monde et de ses valeurs, ce CV, celui d'hommes et de femmes, qui ne représente strictement rien ni personne. Je vais donc m'arrêter, vous proposer le CV que Paul, dont Paul nous parle dans ces 2 versets que nous avons lus. Ça, c'est le CV donc, d'un appelé par grâce. Diplôme. Aucun. Qualification. Aucune. Mérite. Aucun. Capacité insuffisante, sagesse inexistante, hobby, vous pouvez le mettre au pluriel, hein, sans intérêt. Ça, c'est le CV d'un appelé de la grâce de Dieu, ce que nous sommes tous. Ce qui signifie que si vous vous sentez nul, petit, ils sont en fous, hein, médiocre peut-être, en dessous de tout, ce n'est pas grave, bien au contraire. En revanche, vous devez comprendre une chose pour que votre vision de ces choses change, pour que la vision que vous avez de vous-même change, pour que ce CV devienne une force et non un frein, pour que Dieu puisse en faire une puissance, en fait. Et ce quelque chose, c'est ceci. Nous devons comprendre que ces réalités nous concernant ne sont pas une tare, mais un préalable, un prérequis. C'est parce que vous êtes ça que vous avez été choisi. Parce que vous n'êtes rien. Dieu n'appelle que des malades, que des esquintés, que des indigents, que des petits, que des insignifiants. Alors, posons la question, pourquoi nous plaignons-nous de ce qui nous a sauvés, en fait ? Lorsqu'on n'est rien, lorsqu'on n'a rien, lorsqu'on ne sait rien ou pas grand-chose, lorsqu'on fait partie des quantités négligeables, quand on est vide, nombre de fois que j'ai entendu ça, moi, Dieu peut être grand en nous. Il peut faire de grandes choses en nous et avec nous, car nous ne sommes pas dès lors encombrés par notre propre importance. Alors, nous devons donc apprendre à ne pas faire d'une disposition à l'action de Dieu une occasion d'y mettre fin, parce que c'est ça le drame. C'est que souvent, en pensant à notre état, à ce que nous sommes, objectivement, on se dit « je suis tellement nul, moi, il ne sait rien faire avec moi ». Alors que c'est parce que je suis nul qu'il peut faire quelque chose avec moi. C'est une question de regard, rappelez-vous. Hein. Quand votre regard change, votre vie change. Mes amis, Dieu ne se sert que de la faiblesse. C'est la seule pâte à modeler qu'il est. Il ne peut rien contre le sentiment de toute puissance ou d'orgueil, si ce n'est le juger et lui résister, mais il ne peut rien en faire. Il ne peut faire qu'avec notre faiblesse. Alors, vous allez me dire, oui, mais Yves, t'es un gentil, toi, alors tu nous racontes ça. Ben, on va demander à Paul ce qu'il en pense. Hein. La deuxième aux Corinthiens. C'est Paul qui parle. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil, donc il reste dans ses dispositions qu'il est rien, à cause de ces révélations extraordinaires, parce qu'il a quand même reçu des révélations de la part de Dieu extraordinaires. Forcément, c'est Dieu qui lui dit, donc c'est extraordinaire. J'ai reçu une écharde dans le corps, tout une maladie incurable. Un ange s'attend pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Quand vous n'êtes plus rien, que vous le savez, là, Dieu peut commencer à agir profondément et puissamment en vous et à travers vous. Paul savait ce que Dieu était capable de faire de notre faiblesse parce qu'il l'avait vécu dans sa chair et que le Seigneur lui-même lui en avait fait l'éloge. D'ailleurs, pour se convaincre que Dieu aime notre faiblesse, il suffit de jeter un coup d'œil à l'offre d'emploi proposée par l'OCEPTIIB. Vous avez entendu parler ? C'est l'Office céleste de l'emploi pour travail immédiat ici-bas. C'est l'organisme d'emploi du ciel, si vous préférez. Donc voilà l'offre d'emploi auquel vous avez répondu. L'OCEPTIIB recherche un serviteur, une servante pour une vie de service en vue de sauver des âmes perdues. Profil recherché. Le candidat ou la candidate doit ne plus rien espérer de lui-même et être arrivé au bout de tout. Celui-ci ou celle-ci aura une profonde conscience de ses péchés. Il ou elle sera conscient de n'être rien. Le candidat ou la candidate comptera exclusivement sur la grâce de Dieu et son amour. Il ou elle sera également conscient de son besoin exclusif de Dieu pour être heureux et remplir sa mission. Tous les détails et les dons nécessaires à votre mission vous seront fournis lors de la signature de votre contrat à la croix. Le sang du Christ est indispensable à la rédaction de celui-ci et ne pourra être remplacé par rien ni personne. Alors, vous avez peut-être oublié, mais c'est ce contrat-là que vous avez signé. Et vous l'avez signé parce que vous êtes cela. Vous êtes appelé à être ça, à rester dans cette disposition d'esprit. Donc, vous vous sentez mal et en dessous de tout. Vous avez l'impression de n'être rien. Tant mieux ! Dieu a une vie de serviteur à vous proposer. Et votre contrat peut commencer aujourd'hui, en ce premier jour de l'année 2023. D'ailleurs, à la réflexion, notre mal-être en tant que chrétien, si mal-être il a, hein, si vous n'avez pas de problème avec ça, tant mieux. Hein, mais dans notre mal-être vient peut-être tout simplement du fait que nous avons oublié que nous sommes tous, sans exception, appelés à être des serviteurs. Ni plus, ni moins. Il n'y a que des serviteurs. Le CV que je vous ai proposé est au demeurant celui de tous les hommes et de toutes les femmes de la Bible. Alors j'ai pris un exemple, il y en a des dizaines forcément. Je vous propose de revenir un peu sur nos pas. On va retourner dans le logis de Marie, la maman de Jésus, au moment où l'ange Gabriel lui parle. C'est l'annonciation faite à Marie. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la Vierge Marie, était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Vous savez, dans la prière à Marie de nos amis catholiques, Marie pleine de grâce, c'est le texte biblique, pleine de grâce. Autrement dit, pleine d'une faveur imméritée, parce que c'est ça la grâce. On ne la mérite pas. Autrement dit, elle n'est rien, Marie. Rien. Elle ne possède rien, elle ne représente rien, et elle le sait qu'elle n'est rien. Elle est comme nous, surprise par la grâce de Dieu, surprise d'avoir été choisie. Je ne comprends pas. Car qui se rappelle encore que, tout comme son fiancé Joseph, elle descend de la lignée royale de David. Personne, tout le monde s'en fout. Elle n'est rien, ne mérite rien, elle le sait. Elle ne se fait aucune illusion sur son compte, sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle représente. Et elle le dit même dans sa prière à Dieu après la rencontre avec sa parente Élisabeth. Marie dit « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur qui ? Sur son humble servante. » Elle est quoi, Marie ? Comme chacun d'entre nous, une servante. Elle sait qu'elle n'est qu'une humble servante. Mais ce qu'elle sait aussi, et ça je pense que nous avons peut-être tendance à l'oublier, c'est qu'elle a été appelée par un grand Dieu. Elle est petite, mais elle est appelée par un grand Dieu. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence. Et ce qui, je pense, définit l'humilité dont on parle tellement dans la Bible. Et l'humilité ne consiste pas à se rabaisser en permanence, mais à trouver le sens de sa vie et de sa petitesse, qui est bien réelle, dans la grandeur de Dieu. Se savoir petit, parce que l'on sait que Dieu seul est grand. C'est ça l'humilité. Ce n'est pas vous rabaisser en permanence parce que vous êtes nul, surtout par rapport aux autres. L'appel de Marie, parce qu'on parle aussi souvent d'appel, l'appel de Marie, qui consiste à voir Dieu prendre possession de sa vie pour en faire quelque chose qui a du sens, cet appel est une grâce, c'est un cadeau, c'est un don que Dieu donne. C'est pas toujours facile, D'ailleurs, Siméon va quand même lui dire, une épée te transpercera l'âme. Elle va quand même voir son fils agoniser sur la croix. Quel mère ou quel père a envie de voir ça, Mais c'est un cadeau. C'est un don. Elle ne le mérite pas. Vous ne le méritez pas. Je ne le mérite pas. Mais c'est un cadeau et un don. Et cette grâce ne tombe pas sur les puissants, sur les sages, sur les surdoués, mais sur les petits, sur les inconnus, les sans-grades, ceux dont le monde ne tient aucun compte et ne fait aucun cas. Je vous ai dit, j'aurais pu prendre des dizaines d'exemples. Prenez Gédéon, quand Dieu se révèle à Gédéon, « Je te salue, vaillant héros. » Il est en train de rentrer le foin, il n'est pas plus grand que ça. Il fait partie de la plus petite tribu de Jude, de Benjamin, c'est ça, je pense. Oui, Benjamin. Enfin, il n'est rien, ce mec-là. Et Dieu lui dit, « Je te salue, vaillant héros. » Il a dû se retourner en Ikuzaki, le mec, là, c'est pas... Donc c'est positif quand Dieu vous appelle, vous dites, mais pas moi. Par définition, vous n'êtes pas assez bon pour être appelé. Personne ne l'est. Mais c'est parce que vous savez que vous ne l'êtes pas, que vous êtes rien, que Dieu peut commencer à faire quelque chose en vous. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de nous considérer comme des serviteurs? Parce que c'est un peu ça le problème. Si je suis tellement nul, même pour servir, ben, je ne servirai pas. Je pense que le premier écueil, le premier obstacle, c'est justement la confusion entre l'humilité et le dénigrement de soi. C'est ce que je viens de dire en quelques mots. On confond l'humilité avec le fait de se dénigrer soi-même. Et ça, je pense que c'est aussi l'occasion de rappeler que lorsque Dieu nous regarde, bien sûr, nous ne sommes rien. Mais quand il nous regarde, quand il vous regarde, il voit ses enfants bien-aimés. C'est tout ce qu'il voit. Et s'il aime qu'on lui confesse notre péché, car cela console son cœur de père, ça c'est le côté extraordinaire aussi de ce verbe en hébreu, quand on console, quand on confesse son péché, on console Dieu. Incroyable. Il aime ça. Par contre, il n'aime pas nous entendre nous dénigrer à longueur d'années et de temps. Enfin, entre nous, quel père ou quelle mère, digne de ce nom, aimerait entendre son enfant dire à longueur de journée « Je suis nul, je ne vaux rien, je ne suis bon à rien. » Objectivement. Nous sommes les enfants de l'amour infini de Dieu. Et c'est sur ces vérités-là que nous devons nous construire, car on ne se construit que dans l'amour que l'on nous porte, et celui de Dieu est inconditionnel. Quand vous êtes au top de votre vie chrétienne, si c'est possible, pendant une fraction de seconde, il vous aime. Quand vous faites tout bien, tout ce qu'il vous dit, si c'est possible, il vous aime. Quand vous êtes en dessous de tout, il vous aime. Son amour ne change pas. Le nôtre bouge par rapport à ce que les autres sont. Mais le sien ne bouge pas d'une minute. Il existe encore un autre écueil, je pense. Un autre danger qu'il faut éviter. Je tire ce texte aussi de la première aux Corinthiens. Parce qu'il y avait de légers problèmes à Corinth, dont une division, parce que certains disaient « Ah, moi, je suis un disciple d'Apollos. » Puis « Ah, moi, je suis un disciple de Pierre. » Le troisième « Ah, moi, je suis un disciple de Paul. » Il y en a quand même certains qui se considéraient comme des disciples de Jésus. Encore une chance. Mais voilà ce qui se passe à Corinthe. Et par rapport à ça, voilà ce que Paul dit. Ainsi donc, on nous considère comme des serviteurs du Christ. C'est esclave, c'est doulos en grec. Et des administrateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Pour ma part, il m'importe très peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Bien plus, parce que certains disaient que Paul c'était un faux apôtre, c'était un apôtre de second ordre, voilà. Parce qu'il manquait de puissance, il faisait passer de miracles. Il y a des super apôtres à Corinthe en fait. Il y avait des super spirituels. Donc l'antithèse de ce CV que je viens de vous montrer tout à l'heure. Il continue, bien plus, je ne me juge pas non plus moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien. Mais ce n'est pas pour autant que je peux être considéré comme juste, parce qu'il sait bien que c'est Dieu qui sait. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne portez aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et il dévoilera les intentions des cœurs. Chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient. On parle de serviteur. Donc cet écueil, ce risque que l'on court, et qui nous empêche de nous voir comme des serviteurs, c'est de vouloir plaire aux hommes. Faire les choses pour être valorisé aux yeux des hommes. Parce que tant que nous cherchons à plaire aux hommes ou à briller ou à être remarqués par les hommes, nous perdrons conscience que nous ne sommes justement que des serviteurs. Parce que nous perdrons de vue que nous ne devons plaire qu'à Dieu. Donc même celui qui souffre d'une image dégradée de lui-même risque malgré tout de vouloir exister aux yeux des autres et de perdre dès lors la notion de son importance aux yeux de Dieu. Si l'important dans votre vie, c'est que les autres vous remarquent, vous allez perdre de vue le fait que l'important, c'est que Dieu prenne soin de vous. Je ne parle même pas des orgueilleux, pour qui la notion même de serviteur pose problème. Évidemment. Dieu n'appelle que des sans grade. Alors, vous pourriez néanmoins, parce que vous êtes brillant, certains moments quand même, il y a comme ça des flashs qui vous viennent, pourriez me faire remarquer que Paul était loin d'être un sans grade, appelé à devenir un des leaders de sa nation en matière religieuse, intellectuel de premier ordre, homme brillant, Dieu, donc, tu vois, Yves, que Dieu n'appelle pas que des planches à pain. Ne me demandez pas pourquoi j'ai pris cette expression « planche à pain ». Elle m'est venue comme ça, je vous la sers pour qu'elle m'est venue comme ça. Voilà. Nous sommes des planches à pain. Alors c'est vrai qu'en pensant à Paul, on peut se dire « oui, mais ce principe qui n'appelle que des sangs graves », en fait, c'est l'exception qui confirme la règle. On va reprendre un autre passage, dans toujours la première aux Corinthiens, et toujours ce contexte de division dans l'Église. Toujours Paul qui parle. Hein. Qui est donc Apollos et qui est Paul ? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Il ne dit pas employé, il ne dit pas cadre supérieur, hein, il dit ouvrier. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu, donc l'édifice de Dieu. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Paul est logé à la même enseigne que tous les autres. C'est un serviteur. La preuve en est que dans ce passage, il ne se compare pas aux autres, dont se revendiquent certains Corinthiens. Il ne dit pas qu'il est apôtre et qu'Apollos ne l'est pas, qu'Apollos ferait bien de la fermer. Il ne dit pas ça. Ça serait très humain. Hein. Vous vous rendez compte, je suis Paul, quand même. Vous ne vous rendez pas compte, la révélation que j'ai reçue de Dieu, quoi. Vous êtes des cloches, quoi. Vous commencez à vous revendiquer de machin alors que je suis là, quoi. Il ne dit pas ça, Paul. Il ne dit pas qu'il est plus brillant que Pierre. Pourtant, même Pierre dit qu'il ne comprend rien à ce que Paul écrit. Donc, je vais vous dire, hein, qu'il est brillant. Il ne dit pas ça, Paul. Il a très bien compris, tout intellectuel qu'il est, qu'il n'est qu'un serviteur. Et qu'est-ce qu'il a reçu ? Il l'a reçu, justement. Ça va être beau d'avoir un cerveau, un QI de 250. Si on ne vous dit rien, on ne confie rien, vous n'utilisez pas votre capacité. De toute façon, il n'est qu'un serviteur comme les autres. Il ne tombe donc pas dans le piège dans lequel sont tombés de nombreux membres de l'Église de Corinthe, à savoir la comparaison. Car cette comparaison, c'est toujours la même chose. Hein. Elle finit toujours par un jugement porté sur les autres, et ce jugement finit par créer de la division. Toujours. Il y a des partis qui se forment. Et tout ça, dira Paul, toujours dans cette première aux Corinthiens, il dit « tout ça vient de votre ancienne nature ». C'est Dieu qui agit en Paul, c'est Dieu qui agit en Apollos, c'est ce qu'il dit. Hein. C'est Dieu qui agit en Pierre, c'est Dieu qui agit en Isabelle, en Geoffrey, en Sabine, en Yolande, on ne va pas tous vous nommer, hein. En Yves, de temps en temps. Nous ne sommes tous que des serviteurs. Ce qui veut dire une chose très simple, mais qu'on oublie. Il n'y a qu'une seule hiérarchie dans l'Église, c'est celle du service. Dont la devise est celle-ci, cette devise, c'est Jésus qui l'a donnée. Hein. Si tu veux être le plus grand, tu devras être le serviteur de tes frères. C'est quand même pas compliqué. Hein. Tu veux être le premier, tu renverses la table, et tu te mets en dessous et tu sers. Quand on présente les choses comme ça, en fait, il y a moins de candidats, souvent. Mais serviteur. Et Paul résumera d'ailleurs lui aussi le fond de sa pensée comme suit, toujours dans sa première aux Corinthiens. Il leur pose la question, Christ est-il divisé ? Alors ça, c'est extraordinaire. Paul a-t-il été crucifié pour vous ? Autrement dit, moi je ne suis rien, c'est pas moi qui suis mort pour vous sur la croix. Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé ? Pour leur faire prendre conscience, l'important c'est le Christ, quoi, et pas ses serviteurs. Comprenez ? Alors quant à l'intellectualisme de Paul, ben, on va voir ce qu'il en dit lui-même, ça, le fait qu'il avait une grosse tête. Pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu, car j'avais décidé de ne reconnaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. J'étais faible, craintif et tout tremblant chez vous, Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Paul y a dû apprendre. Hein. Il a dû apprendre à faire taire sa science et son éloquence pour que la parole de vie ne soit pas noyée par les mots supposés l'expliquer. Moi, j'ai lu des livres brillants, mais vraiment brillants. Des pages qu'il faut lire 15 fois pour comprendre ce que lui est en train de dire. Et quand vous comprenez, vous dites oh, ça c'est solide ce qu'il vient de dire. Mais c'est accessible à qui ça? Paul, il faisait pas ça. Simplifier. Il a dû se faire serviteur justement de cette parole, s'y soumettre. Car le but n'est pas de briller ou d'étaler sa science, mais bien de prêcher la vérité dans toute sa puissance et sa simplicité. Alors je ne dis pas que Saul de Tarse est devenu Paul en un jour, sûrement pas. Ce que je dis en revanche, c'est qu'il a dû apprendre à ne pas se baser sur sa sagesse, alors qu'il devait parler de celle de Dieu. À ne pas se reposer sur sa grande intelligence, alors qu'il devait annoncer le message d'amour du Dieu créateur, dont l'intelligence du plan était de sauver l'humanité au travers du don de son Fils. Il devait laisser parler l'Esprit Saint de ce que Dieu avait fait, pas enseigner ce que lui, Paul, en avait compris. Comprenez la différence. Il a dû apprendre à s'effacer, parce que qu'est-ce qui caractérise un serviteur? Il s'efface. Avec le nom grec de Pierre, c'est comique. Hein. Araméen, il s'efface. Ah pas grave. Donc, évidemment, le piège dans lequel il ne faut pas tomber quand nous sommes serviteurs, c'est d'être fier de sa petitesse. Hein. Il ne faut pas être fier de sa petitesse, il faut être fier de ce que Dieu peut en faire. Paul dira d'ailleurs, quand vous voulez-vous glorifier quelque chose, ben vous glorifiez-vous du Christ. Voilà. De lui, vous pouvez vous glorifier. Alors, en réfléchissant à tout ça, je me suis quand même demandé s'il n'y avait pas encore une autre chose qui pouvait nous empêcher d'offrir notre petitesse à Dieu pour qu'il en fasse quelque chose. Et, merci à lui, même s'il ne s'en rend pas compte, c'est mon médecin traitant qui m'y a fait penser, en fait. Mon généraliste, il ne s'en sort pas, quoi. Mais vraiment pas. En résumé, il est dépassé par sa propre vie. Il court dans tous les sens et il bouge pas une chaise. Quoi. Il n'a le contrôle sur rien. Alors dit comme ça, ça peut sembler une bonne chose. Et pourtant, il est un mot en fait qui m'est venu en pensant à lui et puis à nous. C'est ce verbe justement, simplifier. Alors pourquoi est-ce que mon médecin s'en sort? Parce qu'il ne revient pas à ses fondamentaux de médecin. C'est aussi bête que ça. Il ne revient pas à sa priorité, à l'appel de sa vie. Quelle est la priorité qu'est-ce qui devrait être la priorité d'un médecin traitant? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes médecins, il faut le rappeler, parce qu'apparemment, ils ne savent pas. Quelle devrait être la signature de sa vie? Ben, ses patients. C'est votre priorité, hein, si vous êtes médecin, les gars. Non? Et tant qu'il ne se dira pas qu'il doit repartir de là et rajuster tout le reste par rapport à ça, il n'en sortira pas. Il n'aura devant lui que des exigences parfois contradictoires, des obligations qui se chevauchent. Il sera tiraillé entre sa femme, ses enfants, son métier, sa famille. Il faut simplifier, et pour simplifier, il faut hiérarchiser. Là, dans ce domaine-là, il faut absolument hiérarchiser. Qu'est-ce qui est le fondement de ma vie? Qu'est-ce qui est le plus important? Autrement, nous allons courir trop de lièvres à la fois. Et l'histoire de quand on court plusieurs lièvres, c'est qu'on n'en attrape aucun. Donc notre priorité, c'est Dieu, notre statut de serviteur, le plan qu'il a pour notre vie, et il faut partir de là. Et le reste s'agence par rapport à ça. Alors, j'aimerais pour terminer reprendre notre CV du début, mais actualisé. C'est en fait le CV de Paul. J'ai imaginé le CV de l'apôtre Paul. Et en fait, c'est le CV de tout serviteur de Dieu. Et je me suis basé pour le faire sur ce que Paul écrit à ses frères et sœurs de l'église de Philippe, en Grèce, alors que lui est en prison, encore une fois. Voilà ce qu'il dit en Philippiens 3. « Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je peux plus encore. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. En ce qui concerne la loi, donc de Moïse, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. À la poubelle, tout ça. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout, et je considère tout ça comme des ordures, le grec est plus explicif que ça, comme du caca, comme des déjections, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, le cheminement, hein, il abandonne tout pour n'avoir plus rien. Et ainsi, la conséquence de tout ça, je connaîtrai le Christ. Et là, c'est pas le verbe gnosis, hein. C'est pas la connaissance intellectuelle, c'est la connaissance profonde, intime du Christ. La puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Alors voilà ce que ça donne sous forme de CV. CV du serviteur, nationalité, citoyen du royaume, diplôme, Jésus-Christ, qualification, Jésus-Christ, mérite, Jésus-Christ, capacité, Jésus-Christ, sagesse, Jésus-Christ. J'ai plus mis hobby, j'ai mis vie, Jésus-Christ. Alors rassurez-vous, parce que ça peut faire peur, vous ne disparaissez pas en étant en Christ. Hein. Vous apparaissez enfin. Le vrai vous apparaît. En Christ, vous êtes enfin à votre place, celle du serviteur. Je vous souhaite une bonne année à tous. Amen.